With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut tout le monde, c'est LCLE, le casque et l'enclume, nouvel épisode. Un petit merci à tout le monde, à celles et ceux qui nous ont écoutés, parler, bavasser autour de Cyberpunk et du top 5 des jeux de western. Ça fait toujours plaisir d'avoir de l'audience, donc on vous salue bien bas. Et je salue bien bas également l'ami Stéphane Moïsakis.
Salut Jean.
Évidemment, on enregistre chez toi, donc je suis obligé d'être très très bas, sinon vraiment on va me foutre dehors. Pierre Mangin, ça va ?
Ça va, ça va.
Toujours une excuse pour être en retard.
Toujours, hein, quand c'est pas le métro.
Là, c'est quoi le NDA ? Non mais dans l'histoire des excuses,
c'est pas mal,
c'est... Non, j'aime beaucoup.
Mais je verrai à chaque fois, en fait, ça c'est voilà. Vraiment
activité. À quand une station de métro qui disparaît, hein,
et ben justement, aussi,
c'est ça. D'accord, ok. Donc, LCE, le casque et l'enclume, aujourd'hui on est très heureux de vous retrouver autour d'un jeu qui, on va dire, est passé à deux doigts de la trappe. On a failli ne pas le faire, c'est un sublime jeu du studio polonais Flying Wild Hog. Sublime jeu parce qu'il s'inspire des films d'un cinéaste japonais, d'un maître cinéaste japonais qui s'appelle Kurosawa, avec un noir et blanc sublime. Alors j'aime beaucoup les textes, les critiques qui parlent d'un hommage au cinéma de Kurosawa, mais enfin faut-il citer encore les films et puis faut-il encore les avoir vus ? C'est pas si évident aujourd'hui. On parlera beaucoup de la génération VHS dans un autre podcast. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein de tentations. On peut faire du jeu vidéo, on peut faire un milliard de choses. Il y a Netflix, voilà, il y a Disney, etc. Et c'est moins évident, je trouve, que de se façonner peut-être une filmographie telle que Kurosawa. Donc je vous cite quelques films quand même. Les Sept Samouraïs, Le Château de l'Araignée, ouais. Si vous voulez voir en vrai 6PO et les droïdes de la Guerre des Étoiles, vous allez voir l'inspiration. Ou La Légende du Grand Judo, ouais. Aussi film génial. Voilà, il y en a sublime noir et blanc, et puis surtout des plans que vous allez reconnaître, parce que ce sont des plans qui ont nourri le cinéma américain, par exemple, mais aussi le cinéma français.
Et le western surtout, ouais,
c'est... Et le western, bon bref, ça a nourri et le cinéma américain, hollywoodien et européen, donc c'est vraiment un grand, quand on dit inspiré de Kurosawa, ce noir et blanc dans Trek to Yomi, il est vraiment inspiré par ça, donc je voulais faire une petite parenthèse. Stéphane, pourquoi on a hésité finalement à savoir si on allait lui consacrer à ce Trek to Yomi un podcast ou non?
Bon, déjà, c'est un petit jeu. Hein. En fait, c'est vrai que nous, on n'est pas là régulièrement. Là, on avait dit qu'on allait faire un podcast toutes les deux semaines. C'est vrai que bon, on a un petit peu tardé là, mais on revient. Et en fait, c'est vrai que on aurait eu une plus grosse actu peut-être qu'on serait pas allé là-dessus. Mais moi, je pense qu'il y a quand même deux points intéressants en fait à traiter pour les gens qui écoutent Capture Mag, hein, en fait, qui nous connaissent à la base pour le cinéma, quoi. C'est que c'est la référence cinématographique en fait évidente. Et il y avait ce second point où on se disait bon, peut-être après que c'est un jeu simple. Tu vois, et que, comment dire, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le jeu à proprement parler, si tu veux, en tant que jeu. Alors, peut-être que Pierre ne sera pas d'accord avec moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire, pas mal de trucs intéressants, parce que, justement, la proposition n'est pas que cosmétique, à mon sens. C'est-à-dire, on va y revenir, hein, mais y a vraiment un soin dans le détail qui est apporté, si tu veux, à l'idée de refaire, entre guillemets, pas que du Kurosawa, hein, mais ce cinéma-là, en fait, dans le jeu vidéo et l'influer, qui, moi, en fait, me renvoie aux origines du jeu vidéo. Mais on va en parler de façon un peu plus, poussée, quoi. Mais voilà, donc je pense qu'il y a tout un raisonnement, en fait, derrière le jeu qui est plutôt intéressant et en plus, moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, donc en fait, qui mérite qu'on en parle, quoi.
Pierre, oui, c'est vrai qu'on a discuté, on a débattu, ouais. Hein, c'était une question de... Il y a eu beaucoup de hype. J'ai vu dans le Discord, d'ailleurs, de LCLE, du Casque et l'Enclume, une discussion autour de Trek to Yomi, ouais. en se demandant la même question, en se posant la même question, est-ce que c'est que de la du cosmétique, finalement, que de l'esthétique et... peu de jeux derrière. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre ?
Non, c'est enfin il y a en fait vraiment les deux sont très liés. C'est-à-dire que il y a une vraie notion de mise en scène et de respect en fait des codes de ce cinéma-là. Et surtout en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ces codes-là servent aussi dans le game design. C'est-à-dire que on va avoir des plans qui vont cacher certains ennemis. Enfin, il y a tout un travail de par les plans de cinéma, je vais influer dans mon jeu. Et en termes de gameplay, c'est je trouve alors effectivement c'est pas le jeu le plus complexe du monde en termes de simulation de combat de sabre, mais il y a un truc, et on en parlait justement en off, justement, il y a quelque chose de très incisif, de très radical dans les duels au sabre qui marche bien en fait. Et c'est un jeu qui marche bien en soi. Il y a des problèmes dont on reviendra dessus, je pense, après, mais c'est un jeu qui est un vrai bon jeu vidéo. Quoi.
Allez, on passe à la question du contexte. Ça raconte quoi, Trek to Yomi ? Parce que bon, voilà, on a fait plein de mille références, on a montré qu'on était très intelligent avec des mots très très compliqués. Voilà, ça raconte quoi ? Dans quelle ambiance on est ?
Alors c'est vraiment l'ambiance Chambara en fait, donc vraiment film de sabre à la japonaise, avec un petit fond qui arrive assez vite, mystique.
Japon médiéval.
Ouais, Japon médiéval, voilà, pardon.
Époque Edo.
Voilà. Et le côté mystique en fait qui va arriver assez vite, avec tout un, bah, justement Yomi, typiquement, qui est une sorte d'enfer en fait dans lequel le personnage va errer. Et c'est vraiment ça en fait, c'est ce personnage là qui va devoir défendre son village contre des bandits, qui est un classique en fait de genre de cinéma à l'époque. Et qui, en fait, en se battant, va en fait perdre une partie des gens qu'il aime et qu'il apprécie dans ce village, et va devoir essayer d'aller les chercher, entre guillemets, dans les enfers, en se battant justement contre les images ou les spectres des gens qu'il a déjà vaincus, et voilà.
Oui, c'est il y a quelque chose d'une suite des sept samouraïs, quoi. On est,
il y a de ça.
Il y a le combat, et puis après, il faut aller rechercher les...
Il y a de ça, et on parle beaucoup de Kurosawa, à juste titre, hein, encore une fois, parce que là, encore une fois, en termes de mise en scène, voilà. Mais après, le cinéma fantastique japonais, c'est aussi quelque chose. Hein, voilà, Onibaba, ouais. Kwaidan, tout ça. Alors, Kwaidan, c'est en couleur, mais je veux dire Kobayashi. Mais le truc, en fait, c'est qu'on est vraiment en fait, dans un type en fait, de fantôme, dans un type en fait, de représentation du fantastique, qui là, encore une fois, en fait, est assez bien, je trouve, retranscrit dans le jeu aussi. C'est-à-dire qu'il y a une fidélité. C'est pas quand on dit c'est cosmétique. Moi, je vais mettre vraiment un point là-dessus. Il y a pas mal de reviews en fait qui reprochent au jeu d'être trop facile. C'est-à-dire trop simple dans sa présentation, trop voilà. Mais justement, en fait, je pense que quand tu traites ce genre de référence et que tu sais que tu vas pas faire du Kurosawa, faut être cohérent. Je veux dire, on va parler de la mise en scène, on va parler de comment c'est mis en scène. Mais globalement, il faut pas s'attendre à avoir une claque avec Trek to Yomi. Qui sera la claque en fait que tu as eu avec les sept samouraïs ou avec
comment dire
exactement
ou Rashomon, ou etc.
Voilà, ouais. c'est on est dans deux médiums différents, le jeu en a conscience, hein. Et en fait si tu veux l'idée c'est qu'on sent qu'il y a quelqu'un derrière qui est Léonard Manciari, qui est en fait un vrai cinéphile, et son approche en fait de la cinéphilie, ce n'est pas une approche purement cosmétique, justement, c'est-à-dire ce n'est pas genre on plaque un filtre noir et blanc, voilà, ce qui peut-être un peu ce que moi je reprocherais, même si le jeu est superbe, tu vois, et même c'est très cool de jouer à ça un petit peu là-dedans, le Kurosawa mode dans Ghost of Tsushima.
Oui, je suis d'accord.
C'est-à-dire que en fait, dans Ghost of Tsushima, qui est un jeu, encore une fois, plein de qualités, vraiment, un superbe open world, une super proposition, avec des idées, moi je trouve, formidables dedans. Il y a notamment, moi, ce que j'adorais et je trouvais ça extrêmement poétique, c'était le vent en fait, qui te mène, qui t'indique en fait la direction. Tu vois, le GPS en fait c'est le vent, quoi. Et je trouvais que c'était une super idée dans un open world en fait de te montrer ça collait tellement avec l'univers et tout, et tellement avec nos référents cinématographiques, que voilà, ça c'est formidable. Mais
ça c'est très Kurosawa-esque.
Exactement, mais c'est pour ça que j'en parle. Mais le truc, si tu veux, c'est que pour autant t'avais une mise en scène en fait qui était une mise en scène de monde ouvert, on va dire, c'est-à-dire avec une caméra libérée, avec tout un truc comme ça, et ça si tu veux, forcément, tu plaques un filtre noir et blanc dessus, mais tu n'as plus du tout, en fait, si tu veux, le mouvement, enfin, les mouvements très précis, très directs, en fait, de Kurosawa.
Oui, c'est un filtre Snapchat, et puis voilà, basta, enfin, on ne sait pas plus.
Un peu plus, en tout cas, plus, mais en tout cas, voilà, tu résumes un peu ce que je veux dire. Et là, en l'occurrence, en fait, la proposition de Trek to Yomi, c'est une proposition, effectivement, de, comme l'a dit Pierre, déjà, de scinder, en fait, si tu veux, les passages d'un plan à l'autre, on va dire, disons ça comme ça, en fait, ce qui est principe du jeu en 2D.5. Hein, y en a plein qui le font, quoi. Et effectivement, pour masquer des ennemis que tu vois déjà, en fait, si tu veux, mais quand même t'orienter vers eux, quoi. Mais aussi, en fait, si tu veux, avec une façon de raviver le souvenir. C'est-à-dire que ça pourrait être très vite, en fait, honnêtement, un jeu Devolver, on sait comment fonctionne Devolver, c'est des jeux plutôt cool, mais c'est des jeux un petit peu, tu vois, référencés, sa vie, tu vois, comme on dit en anglais, quoi, un peu machin. Donc ça, on pourrait très vite rentrer dans un truc où on se la pète, si tu veux, avec Trek to Yomi. On pourrait se dire, ouais, bon, ben, c'est bien, tu connais ton petit Kurosawa illustré, mais c'est pas ça.
C'est ça.
Justement, je trouve que c'est exactement, en fait, l'inverse, c'est tu sens que le type, en fait, cherche, la machinerie en fait propre à Kurosawa, parce que Kurosawa, faut quand même préciser ça, c'est-à-dire tu disais voilà, il y a une énorme influence sur le cinéma américain, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est quelqu'un en fait qui a libéré si tu veux, à un moment donné, la mise en scène. Et c'est venu de chez lui, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont venues de chez lui, les mouvements de caméra, les choses comme ça. Et ce film, ce jeu, pardon, lapsus, tente de révéler ça avec, en fait, une espèce de prise en compte de la physicalité de l'environnement. C'est-à-dire que, pour faire une distinction, par exemple, avec Ghost of Tsushima et ce jeu-là, au-delà du fait qu'il y en a un qui est en monde ouvert, donc en 3D pur, et l'autre qui est en 2D.5, c'est-à-dire de la 3D, mais verrouillée, quoi, l'idée, c'est que quand tu joues à Ghost of Tsushima, tu lances ton cheval, tu mets la caméra où tu veux, si tu veux. Et du coup, forcément, en fait, tu te retrouves dans une espèce de, comment dire, de représentation du monde, en fait, qui est liée à tes besoins, si tu veux, en tant que joueur. Là, la représentation du monde, elle est verrouillée, elle est fermée, c'est-à-dire elle est spécifique. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de mouvement de caméra impossible. C'est-à-dire il n'y a pas de comme c'était le cas chez Kurosawa, c'est-à-dire que Kurosawa il tourne dans un village, il a besoin d'un travelling, sa caméra à partir de là et de là, s'il y a un mur au milieu, il faut le casser, quoi, tu vois, si tu veux, pour avoir son mouvement. Ben, en fait, le jeu fonctionne de la même manière, et c'est ces mouvements-là qui sont révélateurs et qui font partie, entre guillemets, de l'exploration du jeu.
Et puis c'est un vrai révélateur, comme à l'époque faisaient tous les gens en 3D précalculés, en fait, à la Resident Evil, tout ça, qui était en fait, ça a aidé en fait la progression du joueur, parce que ça l'a amené directement par un angle de caméra vers un objet ou vers un élément qu'il devait trouver, mais aussi ça permettait de faire rappel en fait à des scènes de cinéma. Et là c'est pareil, c'est vraiment la même démarche, c'est on a un plan spécifique qui rappelle une mise en scène de cinéma, et qui même souvent des très beaux plans qui pourraient être des plans de cinéma classiques, hein. Mais qui ont un vrai intérêt de gameplay, parce que ça t'amène vers un élément ou vers un objet. Sachant que c'est quand même, il faut le préciser, c'est une sorte de beat'em up, en fait. Donc il y a quand même ce côté très scrolling horizontal, et qui
avec
permet
une profondeur,
en fait,
hein, c'est bien c'est le 2.5 ou le 2.5 D, c'est-à-dire qu'il y a une vraie profondeur de champ,
c'est ça,
de rien, ouais. qui est travaillé là-dessus. Mais bon, j'ai bien compris, alors, au-delà de l'intelligence, c'est que c'est très construit. Ils ont pensé leur jeu au-delà d'un filtre Snapchat, ça c'est OK, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça de ce studio polonais? C'est quand même un peu surprenant, non?
Alors eux, c'est les maîtres d'armes derrière, ouais. Comment dire, Shadow Warrior, c'est ouais. Ça, Shadow Warrior, ouais. Si je dis pas de bêtises.
Flying Wild Hog. Hein,
voilà. Et Shadow Warrior, bah bon, moi après, comme je suis un bourrin, je les connais les jeux.
Ouais, 20 sur 20, mais c'est bien, c'est, bravo.
C'est des FPS de bourrin, très très beauf dans l'âme, hein, tu vois. C'est-à-dire que c'est, enfin eux, ils sont, je pense, sur le côté design, en fait, sur le côté ouais. Fabrication, en fait, du jeu à proprement parler. Et t'as Leonard Menchiari qui voilà. Et en plus, comme c'est un jeu qui s'est fait quand même en temps de Covid, alors lui il habite aux États-Unis, ils sont en Pologne, tu vois, ça s'est fait par Zoom interposé, ouais, voilà, ça, exactement, ouais. Et du coup je pense que l'influence, et je pense que c'est aussi une des limitations du jeu, on va dire, hein. Je pense que cette fabrication un peu complexe, c'est pas un très gros budget, hein, faut être honnête, quoi, ouais. Mais le truc, c'est que c'est je pense que lui il a influé directement cette logique là c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments de game design, par exemple. Si tu veux, il y a un des points, par exemple, si tu veux, si je pouvais reprocher quelque chose, en fait, si tu veux, au jeu, c'est qu'il y a certains éléments, de game design qui sont pas très cohérents, si tu veux, par rapport à l'immersion que propose le jeu. Parce que ces mouvements de caméra dont on parle, ils ont une valeur immersive aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, d'un seul coup, tu as une grange qui est en feu. Tu vois, t'es en train de te battre là-dedans avec quelques ennemis, tu vois, si tu veux, et tu reconnais tout de suite l'ambiance, t'es tout de suite dedans, en fait, si tu veux. Il y a un travail qui est très très poussé, c'est pas que visuel, c'est aussi, tu vois, ils ont réussi à recréer une ambiance telle que moi, dans pas mal de jeux finalement de ce type-là, en fait, de D.5, si tu veux, il y en a pas, ça marche pas tant que ça à ce point-là, et là, c'est très très poussé, quoi. Du coup, quand t'es tellement dedans, tu te prends pour un samouraï et tu joues limite comme un samouraï. C'est-à-dire, moi, j'aime, tu vois, enfin, je sais pas comment Pierre t'y a joué, toi. Mais moi, j'aime bien jouer les petits coups portés, tu sais, les tac-tac comme ça, si tu veux, pour faire tomber les mecs avec deux coups de sabre, tu vois. Genre, en fait, t'es un maître ouais, de la lame,
précis,
quoi. Tu vois,
voilà, lame, précis, un coup, t'es voilà. Mort. One
tu
shot. Retournes,
tu shootes les gars, mais, ouais. Mais on va dire que tu débloques des mouvements, si tu veux, non pas avec l'apprentissage. T'es tellement dans l'immersion du jeu que quand tu débloques des mouvements, des fois, tu débloques des mouvements en appuyant sur un endroit qui brille, tu vois, dans ouais. L'écran, et il te dit ah bah t'as appris ce mouvement là, tu fais quoi? C'est comment ça marche, en fait, cette progression,
oui,
tu vois, un peu établi, un peu bizarre,
un peu hors sol, ouais,
voilà, c'est ça, un peu gamey, quoi, tu vois, un peu tu sors du truc, quoi. Et je pense que ça, bon bah c'est plus facile, on va dire, entre guillemets, de faire évoluer le jeu comme ça que de créer peut-être un élément d'RPG, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois. Mais disons que ça fait partie des petits trucs où d'un seul coup tu te dis ah putain, c'est vrai que je suis dans un jeu vidéo vraiment, quoi.
Mais c'est là justement où on retrouve le beat'em up à l'ancienne, quoi. Enfin, c'est finalement c'est limite du Double Dragon habillé, en fait. Mais il y a ce côté où effectivement c'est très jeu vidéo, dans le sens où il y a pas, comme tu disais par exemple, il y a pas une scène cinématique où on va avoir un maître, même dans un souvenir, tu vois, qui nous apprendrait un coup. C'est vraiment genre.
Non, t'as ça dans le tuto au début.
Voilà.
Quoi.
Ouais. Et, mais sinon, effectivement, tu passes un endroit du niveau, on va dire, bah tiens, maintenant tu sais faire des coups en arrière.
Donc, voilà. Souvent, ça s'explique souvent par une question de moyens, hein, en réalité, parce que évidemment, pour faire tous ces. Ces fonctionnalités nouvelles, en tout cas c'est cet apprentissage, bah oui, il faut passer ou par des cinématiques ou par une nouvelle scène de combat mais qui serait ou un boss par exemple, hein, ouais. Ce que fait très bien From Software, etc. pour augmenter en capacité. On passe au on en pense quoi sur 20 cher Pierre?
Alors moi c'est un jeu que j'aime beaucoup pour toutes les raisons qu'on a donné là. Après c'est un, je vais revenir justement à ce qu'on disait au niveau du gameplay, c'est un jeu qui aurait mérité je pense d'être encore plus radical dans son approche, c'est-à-dire que
c'est un jeu de combat. C'est voilà. Un jeu de combat qui est plutôt sublimement amené,
voilà.
et très intelligent au niveau de sa cinématographie, qui en plus utilise la cinématographie. Alors qu'est-ce que tu aurais aimé de plus, quoi, finalement ?
En fait, j'aurais juste aimé qu'il y ait une vraie, comment dire, un vrai apprentissage. C'est-à-dire que, en fait, on a plein de coups différents assez rapidement, et finalement, on se rend vite compte qu'il y a deux enchaînements qui marchent très bien, très fort, et en fait on n'utilise que cela parce qu'ils sont hyper efficaces.
Après c'est souvent le cas des jeux de c'est souvent le cas des jeux de combat, on le fait tous ici, c'est-à-dire que bon voilà, il y a Alain à la réalisation, on est quatre là autour de ces micros. Généralement quand on trouve deux trois bons coups dans un jeu, ouais. On a quand même plutôt tendance à les utiliser. Alors problème c'est est-ce que c'est forcément les mêmes pour tous ou est-ce que
c'est un peu le problème, c'est que ça marche vraiment pour tous les ennemis.
Trouver le tir pour la lucarne au coin de la surface de réparation, tu mets chaque but.
Et le problème c'est que j'aurais aimé justement, alors ça c'est, je pense c'est aussi un problème de moyens, c'est que on a, y a pas beaucoup d'ennemis différents finalement, et c'est vrai qu'on a tendance un peu à trouver les mêmes types assez vite, et je pense que c'est un peu ce mélange des deux, c'est un mélange de trop d'éléments, trop de coups différents qui en fait noient le gameplay. En plus, le fait d'avoir vraiment un enchaînement qui fonctionne trop bien, je pense qu'il y a eu un problème de réglage à ce niveau-là en termes de game design. Et en plus, le fait que les ennemis soient tous sensibles à ce genre de coups, qui n'est pas un côté pierre-feuille-ciseaux par exemple en termes d'approche, on peut avoir tendance à s'ennuyer assez vite. Je trouve que le fait que ce soit. Qu'il y a un vrai plaisir de jeu manette en main, c'est-à-dire qu'on sent vraiment les coups, on sent l'impact de la garde par exemple, donc ça permet de passer outre ça, de quand même prendre du plaisir jusqu'à la fin, mais je pense que ça aurait mérité, et pour le coup je pense c'est un souci comme on disait de production ou de budget, ça aurait mérité un vrai système plus shadé en termes d'opposition de coups, de failles à trouver, ce qui n'est pas vraiment le cas en fait, à part si on se force vraiment à jouer de cette manière là Mais en fait, le jeu appelle tellement à avancer facile, à avancer rapidement parce que juste il y a un vrai rythme soutenu. On a envie de progresser, donc en fait, on progresse rapidement avec ce coup-là et on cherche pas forcément à juste faire des beaux combats, sachant que bien se battre, c'est pas récompensé non plus.
On en pense quoi sur 20 ?
Moi, je suis un petit peu plus enthousiaste que Pierre là-dessus, mais je dirais que le vrai souci pour moi, c'est surtout que ça manque de précision.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vois la réactivité en fait quand tu balances ton coup et le moment où il part, si tu veux, il y a des moments où tu es un peu perdu dans le combat, surtout quand tu es submergé par 3-4 personnages, tu vois. Et en fait, si tu veux, il y a un truc qui est assez intéressant que je crois pas avoir, peut-être vous allez me contredire parce que je joue pas à tous ces jeux-là, forcément, même si j'aime beaucoup à la base, il y a une barre de stamina.
Ouais.
En fait, d'endurance propre à, tu vois, à Dark Souls et tout ça, hein, qui est assez rare, hein, je trouve, dans ce genre de jeu.
Dans ce genre de jeu, c'est très peu souvent le cas. Ouais,
c'est ça. Et en fait, là, elle a l'avantage en fait, de te bloquer un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu rajoutes de la stratégie, on va dire, si tu veux, au combat.
Avant
quoi, tu vois,
avant de mettre un coup.
Parce que même si tu l'as fait grandir assez rapidement, parce que c'est un petit jeu, hein, c'est un jeu qui a 4-5 heures de jeu, 6 heures de jeu, quoi. Elle arrive quand même, tu l'as fait grandir. Si tu explores un petit peu, tu trouves facilement, parce que c'est toujours le même problème. Tu vas trouver un sac à patates, tu vas regarder dedans, et en fait, apparemment, tu gagnes de l'endurance. Donc c'est là où c'est un peu, je t'ai dit.
Est-ce que tu vas contre les patates ?
Non, mais c'est logique, tu vois.
C'est, en fait, tu sais, c'est pas non plus.
C'est l'aspect logique, tu vois, du truc. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu débloques cette barre d'endurance, tu l'as fait grandir au fur et à mesure. Donc au bout d'un moment, t'as plus tellement ce problème-là. Mais disons qu'au début, tu te poses toutes ces questions-là. Et là-dessus, c'est intéressant parce que c'est plutôt bien vu. Il y a un côté, genre, en gros, c'est-à-dire que c'est pas un jeu difficile, mais de temps en temps, t'as un peu de challenge. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, même si c'est pas ultra équilibré, tu vas te retrouver face à 6 gars qui vont te prendre dans un guet-apens quand tu sors de ton bateau, tu vois. Et là, je peux te dire que bon, t'as intérêt à, tu vois, intérêt à savoir lequel tu vas frapper en premier, lequel tu vas partir, sur lequel tu vas partir en deuxième, etc., etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après. C'est ce que je disais, moi, ce que j'aime en fait avec ce jeu, c'est que tous les jeux n'ont pas à être complexes. C'est-à-dire qu'en gros, à la limite, s'il l'était un petit peu plus, celui-là, J'aurais préféré qu'ils... Enfin, j'aurais pas de problème avec s'ils arrivent à le cacher, s'ils arrivent à cacher cette complexité. Parce qu'il y a une simplicité, finalement, dans ce jeu-là, que j'ai l'impression que beaucoup de gens lui reprochent. C'est-à-dire, quand je lis les reviews à droite à gauche, en fait, dans Edge notamment, dans ce genre de trucs et tout, qui moi, sont des magazines tout à fait respectables et dont je lis l'avis avec un certain intérêt, je me dis, merde, en fait, je comprends, en fait, en termes de jeux vidéo actuels, en fait, ça soit problématique que ce jeu soit pas plus poussé, aussi poussé qu'un Katana Zero, par exemple, ou je sais pas, peu importe, pour prendre des trucs un peu similaires. Mais, en fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une histoire qui dure 12 heures au lieu de 6? Est-ce qu'on a besoin, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, j'aime cette simplicité dans le jeu. J'aime aussi l'idée que, dans son, même si c'est peut-être pas forcément conscient de la part de j'ai envie de dire, l'auteur du jeu, puisque Léonard Amenchiari, je pense que c'est vraiment l'auteur du jeu, y a un renvoi à un type de jeu vidéo qui se faisait dans les années 80, qui avait, en fait, un référencement, si tu veux, au cinéma, et qui, en fait, crée des notions, pas forcément, alors pour le coup, des notions de gameplay, mais des notions de kiff, en fait, si tu veux, autour de l'idée, en fait, de jouer un samouraï dans un film de Kurosawa, parce que c'est pas un samouraï, c'est un samouraï dans un film de Kurosawa. C'est vraiment très spécifique. Comme tu faisais dans Kung Fu Master, tu jouais Bruce Lee, si tu veux, avec le petit cri de Bruce Lee, avec tous ces trucs-là. Donc, en fait, si tu veux, ta référence, elle était là. Et en fait, si tu veux, quand tu joues moi, j'ai du mal à croire que ce soit pas totalement conscient, parce que quand t'as certains moments, en fait, où tu te montres clairement, si tu veux, un tunnel, en fait, si tu veux, à traverser, ou un, tu vois, ou une pièce, enfin, un couloir à traverser, et que, si tu veux, le mouvement de caméra, il est fait d'une manière, en fait, qui te renvoie à ces jeux-là, je me dis, ok, ils ont un petit peu conscience, en fait, de ce truc-là. Ouais, et mine de rien, je pense que tous les gens qui aiment le jeu vidéo, même si, et qui ont peut-être grandi avec ces jeux-là, hein, comme c'est notre cas, ont conscience qu'un Kung Fu Master, aujourd'hui, c'est évidemment dépassé, si tu veux. Bah, je pense que tu leur files une pièce de 10 balles, tu les mets devant la machine d'arcade, ils y jouent. Et en fait, la question, en fait, si tu veux, c'est de se dire, bon, est-ce qu'il y a du plaisir, en fait, est-ce que le plaisir est là? Oui, il est là, même si le jeu est complètement dépassé depuis, tu vois, évidemment qu'il y a une conscience historique, en fait, on sait que le jeu a 35 ans, tu vois. Ouais. Mais là, l'idée, si tu veux, c'est que c'est un peu la même logique, c'est-à-dire, je me dis, mais moi, le plaisir, je l'ai. Donc, je me pose plus franchement la question. J'ai un plaisir, de vrai plaisir de cinéphile, c'est vrai. Si tu veux, c'est vrai qu'il y a, je veux, en fait, si tu veux, jouer à ce samouraï-là dans cet univers-là, avec ce noir et blanc-là, et que ça soit immersif et tout. Et là-dessus, c'est totalement réussi. Donc, la progression, elle est globale. Et moi, je trouve que la simplicité que le jeu, il a, c'est-à-dire ce côté prise en main facile, t'avances directement, tu te perds pas vraiment, mais en même temps, t'as un petit peu d'exploration, t'as vraiment, en fait, un sentiment. Moi, je vais te dire, très honnêtement, ce qui est raté dans le jeu pour moi en termes de mise en scène, tout ça, etc., c'est les cinématiques, en fait. Les cinématiques, à vraiment parler, j'en ai pas besoin.
C'est une sorte de gras qui n'est pas indispensable, parce que ça, justement, ça casse l'immersion que tu as, en fait, en termes de mise en scène qui est déjà là.
Exactement.
C'est pas la peine d'en rajouter une couche par-dessus.
Voilà. Ouais, et en plus, d'un seul coup, tu vois les limites aussi du jeu, parce que tu sens qu'ils ne sont pas des belles cinématiques, forcément. Voilà. Elles ne sont pas aussi belles que le reste du jeu. Les plans, ils ne sont pas aussi beaux. Tu vois, donc en fait, d'un seul coup, tu te dis.
Le jeu en action est beaucoup plus beau que le
jeu. Donc tu n'en as pas besoin. Inactif, quoi. Donc en fait, c'est vraiment, en fait, il y a une simplicité dans ce jeu qui, pour moi, est son atout principal, si tu veux, en fait, dans la proposition de manière globale. Et, et c'est vrai, si vous aimez ce cinéma-là, encore une fois, hein, sans chercher à se dire que c'est du Kurosawa en jeu vidéo, hein, parce que c'est pas le cas, tu vois, ça n'a aucun rapport, l'échelle qualité qualitative, tu peux pas c'est complètement déconnecté. Bah ça évite tous les gros pièges, en fait, que ça aurait pu avoir, c'est-à-dire cette espèce de truc, je me la pète, vous avez vu, je vois des films d'art et essai, tu vois, etc.
Moi aussi j'allais au ciné-club,
il y a une viscéralité, si tu veux, dans sa façon d'essayer de retranscrire ce cinéma-là. Il y a une façon, justement, de le sortir du cadre de l'art et essai, en fait, pour en dire, attends, mais comment ça a été fait, ces jeux-là, ces films-là, comment est-ce que je peux les retranscrire, en fait, dans mon jeu, tu vois, se poser toutes ces questions-là. Et ça en fait, pour moi, en tout cas, qui vient du cinéma, qui aime le cinéma, qui aime ce cinéma-là, ça en fait un objet fascinant et vraiment, vraiment intéressant à jouer. Peut-être pas rejouable, je ne l'ai pas rejoué, mais en tout cas, vraiment cool à faire. Tu vois. Donc moi, je trouve les gens assez durs, en fait, sur ce jeu.
Mais parce que tu as raison, en fait, je trouve, notamment par rapport, enfin, on parlait avant de Ghost of Tsushima, en fait, l'intérêt que je trouve dans Trait to Yomi, c'est qu'il ne sait pas, en fait, d'aller hors de son credo, en fait. C'est-à-dire dans Tsushima, par exemple, on peut faire des stealth skills, en fait, enfin, on peut s'infiltrer. Et en fait, là, pas du tout. C'est-à-dire que ils ont réussi à comprendre même la sensation d'un combat, en fait, dans un film de sabre. C'est-à-dire que comme disait Stéphane, quand on est entouré, en fait, de beaucoup de personnages, de beaucoup d'ennemis, en fait, on va avoir tendance à faire des petits pas en arrière, des petits pas de côté, en fait, d'hésiter. Et c'est ce qu'on trouve dans les films de sabre, en fait. C'est ce moment d'hésitation avant le moment où on va donner un coup qui va être hyper intense et rapide. C'est-à-dire que dans tous ces films, même jusque récemment, aucun combat n'est une passe d'armes. Enfin, c'est pas des films de KPDP à la française, quoi. Il y a vraiment aucune passe d'armes ne dure plus de 30 ou 40 secondes. Et ce jeu-là marche bien par rapport à ça aussi. C'est qu'ils ont compris comment faire un combat où en fait le résultat est rapide, intense, et ça, pour le coup, ça marche bien.
Allez, on passe à l'attribution du Pégase. On l'attribue à quoi ? C'est quoi le l'Himalaya de Trek to Yomi ?
Peut-être...
La cinématographie bien comprise ou...
Moi, je dirais ça, ce serait vraiment... Ce serait un genre très, très particulier, très de niche, mais ça serait vraiment... adapter des codes de cinéma à un jeu vidéo, en fait. Mais vraiment, dans le sens adapter, dans le sens l'intégrer vraiment à une logique. Ouais.
Ouais, plus l'intégrer, ouais. D'ailleurs, peut-être que le... C'est pas un portage, c'est juste...
Non,
c'est ouais. Un... Ok, intégration, le Pégase de la meilleure intégration.
Ouais, moi, je pense que c'est la même chose. Il a très bien résumé, Pierre a très bien résumé, parce qu'en fait, il y a vraiment en fait, cette idée que, ces plans, c'est pas tant qu'ils ont un sens, en fait, comme ils auraient un sens au cinéma, mais ils ont un sens dans le jeu. Enfin, c'est ça, tu vois. Et du coup, en fait, en gros, tu te retrouves avec... Ah ouais, d'accord, là, je suis dans un duel. Mm-hmm. Je le comprends. Mm. Là, je suis dans l'exploration. Et en fait, si tu veux, tu as cette... Je suis même dans l'émotion. Parce qu'en fait, des fois, tu te retrouves, si tu veux, tu as des zones que tu traverses où tu n'as pas de personnage à tuer. Mm. Tu n'as rien, tu as juste en fait, des gens en train de crever. Ou juste des fantômes en fait qui t'interpellent parce que c'est des âmes damnées, tu vois. Et du coup, c'est ce que je dis en fait quand je parle de que les cinématiques finalement c'est du gras effectivement parce que grosso merdo ça passe en fait. T'es là, tu comprends totalement le truc en fait alors que t'es ennuyé en train de te balader.
Exactement, c'est ce qu'on appelle comme ça aujourd'hui. Mais enfin, voilà. En tout cas, il y a un lore qui est là, il y a un background, il y a un contexte qui est expliqué dans le jeu ou via le jeu quoi.
Voilà et qui n'existe pas vraiment, je trouve, dans des jeux comme ça en fait, des jeux en 2D.5. C'est-à-dire qu'en gros, moi je suis un gros fan de, enfin j'ai grandi avec ce genre de jeu, hein, les jeux scrolling horizontal ou vertical. C'est je kiffais ça quand j'étais gamin, vraiment. Et le truc, c'est que un de mes jeux favoris, c'est Shinobi, quoi. C'était vraiment un des trucs dans lequel j'ai mis, mais je sais pas combien de pièces en fait dans le jeu, quoi. J'ai foutu 5 balles dedans sur le Xbox Live Arcade à l'époque. C'est les meilleures 5 balles que j'ai jamais claquées de ma vie en jeu vidéo, quoi. Je le fais, mais encore et encore et encore des fois. Et le truc, en fait, c'est que bon, évidemment, c'est une Madeleine. Mais le truc, c'est que, mais je trouve que c'est encore un vrai bon jeu. Et je pense en fait que justement en fait quand tu te retrouves avec des jeux comme et moi j'avais adoré ce jeu-là je trouvais super bien foutu, c'était un petit Metroidvania de la fin des années 2000 qui s'appelait Shadow Complex, je crois.
J'y pensais aussi là, c'est très bien.
Qui est super cool si tu veux, mais qui est en gros c'est un jeu de bourrin quoi. Si tu veux, il y a pas de questionnement émotionnel sur le jeu, ce que ça raconte, ça le raconte pas très bien.
Mais c'est épique hein, donc oui, c'est voilà. Clair.
Et du coup, voir un truc comme Trek to Yomi qui propose ça et qui arrive à l'intégrer encore une fois avec une simplicité, une évidence. Alors peut-être parce que j'ai les codes, peut-être parce qu'on a les codes, j'en sais rien. Mais en tout cas, avec une évidence en fait. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a une question de ressenti en fait quand tu fais attention à ça, quand t'es dans l'ambiance. Bah franchement, ouais, Pégase, tu vois, enfin, t'y vas. C'est vraiment ce qu'il y a de plus réussi. Et on parle beaucoup, tu vois, de jeux narratifs, de trucs, etc., etc. Tu vois, mais s'il y a pas mal de joueurs qui aiment jouer, on va dire des histoires qu'on leur raconte. Avec une émotionnalité, on va dire chez les David Cage, là il y a The Quarry qui va sortir, ce genre de choses. Bah, en fait, si ça les intéresse en fait dans le jeu vidéo, bah il y a en fait ce contrepartie où moi je me retrouve un petit peu plus parce que je joue quand même beaucoup, tu vois, mais qui fonctionne en fait. Si tu veux, et on parlait de From Software la dernière fois avec Elden Ring, mais voilà, je pense qu'il y a quelques influences qui sont là, et c'est bien de voir que les mecs les prennent, même si encore une fois ça reste très relatif, tu vois. Ça reste très Toyomi. Il y a quelques influences que les mecs prennent pour raconter leur truc qui, moi, je trouve, fonctionnent super bien et qui sont plutôt...
Et ce qui marchait bien, en fait, même t'en parlais tout à l'heure de Katana Zero, et je trouve que c'est vraiment les deux qui m'ont le plus marqué à ce niveau-là, en fait, en termes d'adaptation du beat'em up à des codes actuels. Sachant qu'en fait, c'est rigolo parce que t'as vraiment Trek to Yomi qui est une espèce d'incrustation, justement, du film japonais médiéval, en fait, dans le jeu vidéo. Et Katana Zero qui est aussi un truc du film de sabre, mais années 90, néon et vision américaine du ninja et du katana.
Oui, et puis très pixel, très dans une veine, disons. C'est là où je trouve. Alors, j'adore Katana Zero, hein, donc c'est pas une critique, mais là où la proposition esthétique d'un Trek to Yomi est quand même beaucoup plus surprenante, parce que quand on voit. On se dit c'est beau le 2,5D, ils l'ont bien maîtrisé. Il n'y a pas que les Japonais, ils le font. vachement bien. Et c'est des propositions beaucoup plus rares. Oui, maintenant, on se calme. Enfin, j'ai l'impression que ça se calme du côté du pixel, du pixel art. Mais au moment où Katana Zero arrive, il y en a, enfin, il y en avait beaucoup, voire je pense beaucoup trop. Et là, on a une esthétique un peu quand même nouvelle. Enfin,
t'as totalement raison de le signaler parce que c'est vrai que ça fait partie des trucs où c'était absolument génial d'un seul coup d'avoir le pixel art. En fait, si tu vas à la fin des années 2000 et te dire waouh, Fez, waouh, tous ces trucs-là, etc., etc. Tu vois. Mais en fait, à un moment donné, t'as envie de dire ok, c'est le parent pauvre, tu vois, parce que tout le monde le fait maintenant, si tu veux. C'est-à-dire que en fait, c'est-à-dire que d'un seul coup, on peut dire ah bah j'ai pas d'argent, donc je peux le faire en pixel. Et bon, on verra si ça prend un petit peu. Voilà. D'ailleurs. On va avoir plein d'innovations de gameplay qui sont mortelles avec ça, tu vois. Et Katana Zero, ils intègrent le comment t'appelles ça,
le côté VHS rembobiné,
le ralenti, le rewind, les trucs comme ça qui étaient super cool et tout. Mais c'est vrai que c'est une autre proposition. Là, on est vraiment dans une immersion. J'ai pas envie de dire cinématographique parce qu'il y a pas que ça en fait. Si tu veux, à la fin, en fait, t'es dans un jeu.
Ouais.
L'important, c'est en fait, ils utilisent des codes de cinéma pour te faire rentrer dans ce qu'ils racontent. Donc du coup. Quand tu connais ces codes-là, ça fonctionne.
Mais ça, et puis ce qui est pas anodin, c'est que je vois plein de gens qui sont autour de moi qui sont pas joueurs, en fait, m'ont jamais parlé de Katana Zero. Par contre, Tsuyomi m'ont tous dit ah, ça a l'air chouette, j'aurais bien essayé. Voilà, il y a quand même un truc qui marche plus
à l'œil. Forcément, là, à l'œil, il est beaucoup plus attirant.
Et puis même
les
références
plus originales.
D'ailleurs, il est dispo sur le Game Pass.
Oui.
Si tu veux y jouer à l'œil, justement.
En tout cas, à prix modique, un abonnement plutôt modique. Bah, dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous pensez, si vous aimez, si vous avez envie d'y jouer, si vous y avez joué, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Pierre et Stéphane. L'avant-dernière rubrique, elle arrive quand la suite ? Il lui faut une suite ou pas ? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose d'autre ou c'est vraiment un...
Je trouve qu'il n'en a pas besoin. Après, c'est comme c'est leur vision à eux. Est-ce qu'eux, ils ressentent le besoin de le faire ? Est-ce que Devolver ressent le besoin de le faire ?
Pardon, la question est un peu. Elle est un peu. J'allais dire injuste. C'est-à-dire qu'en cinéma ou dans les romans, on peut bien comprendre cette question. Par exemple, Dark Souls n'a pas besoin d'une suite. Il se trouve qu'il y en a parce qu'ils améliorent la formule. Et alors, d'un point de vue ludique, peut-être qu'il en a besoin. Il avait besoin de ces suites pour arriver à Elden Ring, tu vois, si j'aimais ça. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose que de dire est-ce que je donne une suite à Rambo, à n'importe quel. Voilà, si je prends un film, est-ce que je lui donne une suite ou pas, mais voilà, est-ce que ça mériterait une suite pour le faire grandir? Est-ce qu'ils ont une formule capable d'avoir un peu plus d'argent, un peu plus de budget ou pas?
Je pense pas, parce qu'en fait justement une des erreurs qu'ils font dans le jeu, c'est par exemple de rajouter des puzzles à un moment donné qui servent vraiment à rien, et pour le coup j'ai l'impression qu'ils peuvent pas tirer plus en longueur que ça sur le concept, et c'est ça qui me fait dire qu'une suite c'est pas forcément très utile.
Mais en plus ces puzzles là ils sont d'une simplicité absolument je veux dire, un enfant de 3 ans il les fait, quoi. C'est vraiment pour dire allez là il y a du game, parce qu'en fait il faut qu'on t'avance, quoi. Mais le truc, si tu veux, c'est que non, c'est pas en fait moi si je vois une suite à un truc comme ça serait plus en fait un autre type de référencement de cinéma, pour une proposition entre guillemets originale, certes référencée, mais originale par rapport à ce qui se fait dans le jeu vidéo aujourd'hui, et avec peut-être en poussant justement encore plus ce savoir-faire dans la mise en scène de manière générale. Et bon, si on peut un petit peu affiner le gameplay, moi je dis pas non, au contraire, je pense que de toute façon dans les deux cas ils vont apprendre des erreurs de Trek to Yomi. Puis je pense qu'on leur met un peu le nez dedans, donc en fait, je pense qu'ils en ont conscience. Mais voilà, c'est un mec qui est intéressant, parce que moi je l'ai interviewé, Léonard Menchiari, en fait, on a échangé par mail et tout, et en gros, c'est un mec assez intéressant parce qu'il a vraiment une approche en fait d'immersion pure, c'est-à-dire que même à travers le gameplay, c'est-à-dire il n'y a pas que le visuel, c'est-à-dire que même lui se pose des questions sur le gameplay. Par exemple, quand je lui ai posé justement la question de la progression, je dis, mais est-ce que c'est pas un problème en fait que la progression finalement ça soit des trucs que tu découvres au fil de ton parcours, mais un peu n'importe où, quoi. Il a dit ouais, bah je suis pas hyper fan de ce système là, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui il y a un truc qui fait que en fait c'est pas logique. Par exemple, ça serait plus logique d'apprendre un mouvement, par exemple un nouveau coup, si en fait on a un adversaire en face qui le fait, et d'un seul coup ton personnage se dit ah, on peut faire ça avec mon sable, j'y avais pas pensé, hop, tu vois, et d'un seul coup tu l'apprends en fait en le combattant, quoi, tu vois, et quand tu le tues, quoi, tu vois. Mais donc s'il se pose ces questions, bah moi je vais voir le prochain jeu en fait où il se pose ces questions là quel est l'aboutissement de ça, quoi.
OK. Vous en savez un peu plus sur Trek to Yomi. Effectivement, moi je n'y ai pas joué, donc ça me donne très très envie d'y jouer. En plus 4-5 heures, c'est cool quand même. Moi j'aime bien aussi les expériences comme ça. Il n'y en a pas assez, je trouve. Et on est très heureux. C'est ça, on n'a plus le temps. Puis bon, voilà, les mondes ouverts, c'est bien sympathique, mais ça prend toute une vie quand même. On va passer au bonus track. Donc, c'est la rubrique qui conclut habituellement nos podcasts. C'est-à-dire, quel est le jeu du moment que vous avez testé, hors celui d'actualité du podcast lui-même. Donc, Pierre, tu veux commencer ? C'est quoi ton bonus track ?
Alors, justement, maintenant que je peux en parler, comme le NDA est tombé.
Voilà, c'est pour ça que tu étais en retard. Donc, c'est il a intérêt de bien ce jeu, parce que je vais te dire que ça va.
Alors, justement, il est très bien. C'est là, j'étais à, un autre jeu Devolver, pour le coup. C'est Card Shark, qui sort demain. Et qui est un jeu en fait de triche où en fait on joue
jeu de cartes de triche.
C'est ça. En fait, ouais. On joue en fait c'est vraiment inspiré de Barry Lyndon pour le coup, pareil en termes de référence cinéma. En fait, on joue un duo de personnages qui essaie de, on pense à la base qu'ils essaient de monter un petit peu dans la bourgeoisie française du 18e siècle. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça en termes de d'histoire et de narration. Mais tout le gameplay est basé sur la triche, c'est-à-dire qu'on va apprendre une vingtaine de tricks de triche et on va devoir s'inviter au salon et aux tables des ducs et des comtesses les plus élevés d'époque, même croiser les philosophes comme Voltaire et tout ça et jouer avec eux aux cartes. Et on va jamais jouer correctement, c'est-à-dire qu'on va jamais faire une partie normale, on va toujours essayer de tricher.
C'est le pitch absolument génial.
Mais avec des très bonnes idées, c'est-à-dire qu'au début c'est juste de la manipulation de cartes de bon taux basique. Ouais. Au bout d'un moment on va se déguiser en comtesse pour espionner avec son miroir les cartes des gens et faire des signes avec son voilage ou son éventail à la personne en face qui va tricher en sachant les cartes de l'adversaire. Voilà. Et c'est assez brillant en termes de mécanique. Il y a des soucis d'équilibre ou de structure, mais il y a de vraies bonnes idées et c'est surtout un jeu hyper original. Ouais.
Ça, c'est très bien. Ça pourrait donner lieu à un podcast, peut-être, on verra. Parce que quand même, là, la proposition est vraiment... Là, c'est le code triche qui devient le jeu lui-même. Ouais. Donc, c'est absolument génial. Stéphane, tu arrives à jouer à quoi ?
Ouais, moi, je joue... Alors, moi, j'avais un peu raté...
Shinobi,
le...
j'entends.
Oui, mais attends, on n'est pas loin. En fait, j'avais raté les jeux où ils sont sortis. Ils ont 10 ans maintenant, quand même, mine de rien, les Hotline Miami. Et du coup, en fait, depuis 2 ans, je suis dessus.
C'est peu de le dire d'ailleurs.
Ouais, ouais, et vraiment, en fait, le truc avec Hotline Miami, c'est que je n'ai pas joué aux deux, j'ai joué au premier. Mm-hmm. J'ai les deux, mais j'attends vraiment en fait, de bien saigner le premier, et ça sera le jeu ou moi, on verra. Tu vois. Mais là, en fait, je t'avoue que tu vois, je veux dire, je commence à reprendre un vrai plaisir, en fait, si tu veux, à comprendre. Alors, bon, on explique peut-être ce que c'est vite fait pour les gens qui ne connaissent pas. Hotline Miami, c'est bon, très clairement. Alors, quand je dis que c'est un jeu qui a 10 ans, c'est qu'il a des refs d'il y a 10 ans aussi. C'est-à-dire, en gros, ça se passe dans les années 80, c'est top-down, en fait, c'est vu du dessus. Et en fait, c'est des petites zones où tu joues un tueur en fait qui rentre et qui doit nettoyer la place, quoi. Et en fait, en gros, quand je dis que ça a des références des années 2000, début des années 2010, on va dire, si tu veux, c'est que il y a c'est très avec un soundtrack en fait, une bande originale très synthwave en fait, comme on dit, quoi.
Ouais, électro qui tape, quoi.
Voilà, et qui est super en plus, qui est vraiment cool, quoi. Mais disons que peut-être que les petits jeunes ils vont dire, ah, c'est ringard, c'est un peu vieilli.
Ça fracasse quand même.
On est dans les années 90 maintenant.
C'est vrai que bon, c'est daté, mais dans les oreilles ça.
Et du coup, ça énergise énormément aussi le gameplay. Il y a un truc que j'adore en fait dans ce genre de jeu. Moi, je suis très très client des jeux où quand tu as une vraie formule en fait de gameplay qui est un peu dans le die and retry, mais qui te permet de revenir tout de suite en fait dans la partie.
C'est un vrai die and retry pour le coup.
Voilà, c'est ça. Tu crèves, mais en fait tu relances tout de suite et tu comprends en fait si tu veux quelles sont les autres stratégies que tu dois, ou pas d'ailleurs. Parce que moi, il y a des moments où il y a un niveau que j'ai dû mettre, mais au moins. 3 mois à passer. Tu vois, tellement je suis mauvais. Hein. Donc, il faut le préciser. Quoi.
Ah non, mais c'est difficile. Hein. C'est pas t'es mauvais. C'est vraiment difficile.
C'est difficile. Et là, j'ai pas encore fini le jeu à proprement parler. Mais en fait, j'arrive maintenant, après 2 ans, hein, à comprendre, parce que je veux vraiment saigner le jeu, qu'en fait, tu finis pas le jeu. Tu recommences tout le temps, en fait, de toute façon, les niveaux. C'est-à-dire, il y a vraiment une idée, en fait, si tu veux vraiment le platiner, entre guillemets, façon de parler, quoi. Bah, il faut y aller, en fait, si tu veux, et vraiment y aller à fond. Et chaque masque, parce que tu débloques des masques au fur et à mesure, et tu débloques des armes au fur et à mesure, sont stratégiquement des masques en fait qui te donnent des petits pouvoirs. Par exemple, tu as un masque en fait, ça s'appelle Little Doors, tu vois. Donc en fait tu claques la porte sur la gueule des mecs et ils crèvent en fait, si tu veux. Et comme c'est vu du dessus en fait, toi tu rentres, tu les vois en fait, tu leur mets un coup de porte sur la tronche, les mecs ils le nez qui pète, tu vois, voilà. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça. Et en gros, si tu veux, c'est stratégiquement ce qui te permet de passer, enfin c'est l'énorme rejouabilité du jeu en fait, qui est super cool, quoi. Et voilà, donc c'est assez chambé. Mais bon, je pense que la plupart des gens qui nous suivent connaissent.
On parlait de Katana Zero, c'est un digne héritier de Hotline Miami. D'ailleurs, il y en a un paquet qui sont des dignes héritiers de Hotline Miami. Et quand tu verras le 2, il y a une scène notamment, je veux pas spoiler, la prison. Pouah. Tu disais ringard, mais quand t'as le casque dans les oreilles et que tu joues, il n'y a plus rien de ringard.
Je dis pas pour moi, parce que moi je suis un vieux.
T'as l'adrénaline au max, le truc te pète dans les oreilles et tu fais hop.
Non, disons,
absolument. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais ça marche tellement avec le gameplay ultra violent, parce que je peux pas dire d'ailleurs autrement, parce que c'est quand même ça.
Ouais, c'est clair.
Que tu fais que tirer, bourriner, péter des tronches à la coup de batte de baseball. Enfin, c'est absolument
très bon jeu.
C'est deux très bons jeux, vraiment. Si vous voulez, là, on parlait de cinéphilie. Ouais. Hein, si vous, dans votre ludothèque, ça, Hotline Miami 1 et 2, c'est quand même...
C'est Pixel Art aussi,
oui,
faut le préciser.
Pixel Art, saignant.
D'ailleurs, je tiens à signaler qu'on n'est pas du tout sponsor par Devolver, parce qu'on a parlé 100% de Devolver.
Non, je suis désolé.
C'est une coïncidence.
Je vais devoir casser l'ambiance, parce que moi, mon bonus track pour finir, c'est en plus un jeu horrible, détesté par l'intelligentsia du jeu vidéo. C'est donc Diablo Immortal, parce qu'évidemment, il y a des lootbox, je suis désolé. Donc, c'est un jeu gratuit qui est apparu, mais comme il est apparu voilà, il y a quelques heures sur iOS, je me suis dit, bon, je vais le tester quand même. Moi, Diablo, j'adore. Possible de pas tester ce jeu. Free to play avec du loot box, vraiment, c'est pas mon truc, donc on va y aller quand même. Alors, les mecs ont réussi. Bon, ils sont avec NetEase, hein, le chinois, hein, donc Blizzard, Activision Blizzard sont pas seuls dans l'histoire. Ils ont réussi à faire rentrer Diablo 3, parce que c'est une sorte de Diablo 3 ou de Diablo 3,5, dans un smartphone. Ça, ok, tu peux te dire, ça peut passer. Mais après, tu vas dire la jouabilité, ça va, on connaît hein, les commandes tactiles, les manettes tactiles, c'est vraiment de la daube. Ce qui est vrai, d'ailleurs, dans 99% des cas, le truc est jouable. Le truc est non seulement jouable, mais tu prends ton pied, tu fais mes bandes d'enfoirés. Vous avez réussi. Mais comme Diablo 3, quand ils sont arrivés sur console, on disait, oh là là, le portage ouais, PC console, vrai. Ça va pas mal. Et ils ont fait un super travail. Et là, le travail est remarquable. Je ne peux pas dire mieux que ça. C'est vraiment remarquable. Vous avez, si vous connaissez Diablo 3, vous allez avoir cette impression de revenir quand même dans Diablo 3. Mais quand même, ils réussissent à intégrer un maximum de futurs présents dans Diablo 3 pour un jeu nouveau, pour une nouvelle histoire, etc. Il y a du bon loot. L'intégration de l'inventaire est pas mal fait, simplifié, mais pas trop. Voilà, donc c'est moins complexe que sur PC ou sur console, mais c'est quand même pas mal. Franchement, les salauds, quoi. Allez, salauds. Alors du coup, je me suis dit, je vais rien lâcher sauf le premier euro. Donc je vais payer une caisse la première fois pour dire OK, le jeu est bien. Je fais quand même, il y a quand même des gens derrière qui bossent. Je fais quand même s'il n'y a que quelques centimes qui vont dans l'euro que je vais donner, je vais payer un euro, mais c'est quand même du travail qui est super bien fait. Voilà.
Mais enfin, quand tu payes une loot box comme ça, t'es content. Je veux dire, il y a quelque chose de bien dans le loot.
Oh bah, tu reçois du une bonne récompense. Ah oui, quoi, j'ai reçu de l'or et une bonne armure. Et d'ailleurs, je l'ai mis tout de suite.
C'est aléatoire, on est d'accord. Hein,
bon, après, je pense que là, ils font gaffe. Quoi. Là,
oui.
On marchouille un peu sur les œufs, là. Ouais, puisque le jeu est interdit, je crois, aux Pays-Bas et en Belgique à cause des loot box. Donc c'est pour ça que je dis, faites attention.
Oui, parce qu'il faut préciser que ça tombe des fois sous la réglementation des jeux de
voilà,
l'argent.
C'est-à-dire que certains disent, et notamment je crois l'UFC que choisir, dit non, attention, les lootbox, ce sont des jeux de hasard et d'argent, donc ils feront entrer le jeu vidéo dans une autre catégorie. Et les défenseurs, parce qu'on va quand même les citer, eux disent non, c'est comme les pochettes surprises, vous achetez des pochettes surprises, voilà, bah, vous achetez ça à 1 euro, 2 euros, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, et ça marche, ça a le même effet pour nous, ou même les trucs Panini, voilà, les pochettes Panini. Oui. Voilà, donc c'est vision contre vision. Voilà.
C'est quand même pas la même addiction, les pochettes surprises.
Puis c'est pas le même prix, parce que là, j'ai vu, j'ai fait 1 euro, t'as le truc sympa, c'est le truc d'entrée, puis là, le deuxième, c'est 15 euros. Et la troisième,
c'est
25
euros.
C'est
des dealers, les gars, les mecs,
combien de fils. C'est 25 euros, le bon.
Non, mais c'est l'inflation, tu comprends.
Ouais, ouais, merci Stéphane, merci Pierre,
merci Jean.
Si vous voulez y jouer, vous laissez vos commentaires. Donc un peu partout, je pense que évidemment les auditeurs de Capture Marque, les auditrices et les auditeurs vont se lâcher sur cet épisode Kurosawesque. Salut.